psychologue sportif, celui qui, entre autres, s'est occupé, a pris bien soin de Tiger Woods à une certaine époque où Tiger Woods avait besoin de ses services. Et probablement que Tiger en aurait peut-être besoin encore aujourd'hui. Et la semaine dernière, l'idée qui se cachait derrière l'entrevue qu'on voulait faire avec Sylvain Guimond, c'était d'aller voir dans la tête de Shea Weber, entre autres. Quand tu viens de franchir les séries finales de la Coupe Stanley, tu sais, t'as vraiment les émotions à fleur de peau, hein, t'as connu de grands moments à titre de sportif, et que dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, tu annonces que ta carrière est quasiment terminée entre les deux oreilles. Ça doit pas être évident à gérer. De là, l'idée d'inviter avec nous autres Sylvain Guimond maintenant. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, ça va bien?
Oui, deux, trois sujets pour toi, si tu veux. Là, on ne te dérange pas longtemps. On te laisse retourner à ton terrain de camping, si tu es là.
Où, non, je suis pas un terrain de camping, je suis plus dans ma cour.
Ah, tranquille. Bon. Ouais, tranquille dans ta cour. T'es-tu installé du outdooring, comme on dit, là, avec la piscine et tout ça? Non, mais dis-moi, juste pour revenir sur l'histoire de Shea Weber. Oui. C'est un sportif de haut niveau, on s'entend là-dessus. Puis là, ce qu'on apprend avec stupéfaction, c'est que ce gars-là a été tellement résilient qu'il a joué la fin de la dernière saison, cassé, blessé d'un bout à l'autre. Comment il peut faire ça?
Vous vous souvenez de François Beauchemin, qui est d'ici de Sorel-Tracy? François a joué la Coupe Stanley avec deux pieds fracturés. Lorsqu'il enlevait ses patins, il était incapable de marcher ou presque. Puis il a fait des séries, puis ils ont gagné la Coupe Stanley avec des fractures comme ça. Ces gens-là ont une force assez spéciale sur d'être capable de supporter la douleur. Et probablement qu'il s'est dit, moi, je ne vais pas laisser tomber mes coéquipiers à ce moment-ci, je suis le capitaine de l'équipe. Puis la chance que j'ai de revenir, puis d'être dans la finale de la Coupe Stanley dans ma carrière, c'est peut-être la dernière. Et à mon avis, à ce moment-là, bien, on va jouer avec des blessures, avec des douleurs, avec des problèmes beaucoup, beaucoup plus graves. Mais on ne veut pas s'arrêter là parce qu'on est trop près du but.
OK, mais ça s'étouffe, ces douleurs-là. Ils prennent des pilules, je ne sais pas, des injections. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire ça également? C'est éthique de geler le mal jusqu'à ce que le joueur ne puisse plus sentir rien?
Bien, ça, pour ce qui est de ce qui a été pris, tout ça, j'en ai aucune idée, puis je ne penserai pas. Puis le Canadien de Montréal, s'il y a une organisation qui sont excessivement méticuleux sur le côté médical, c'est on peut pas avoir mieux dans la Ligue nationale que le Canadien de Montréal. L'équipe médicale, là, est exceptionnelle. Donc, je suis certain qu'ils l'ont fait pour le bien du joueur, puis s'assurer qu'il puisse jouer. Mais je suis loin d'être certain qu'il y avait à prendre toutes sortes de substances pour être capable de jouer. Je vous dis que probablement seulement être capable de résister à la douleur, c'est ce qui est arrivé. Et là, en prenant cette année-là qui va prendre probablement pour guérir ses blessures, moi, je souhaite juste une chose, qu'il soit capable de revenir. Et ça sera sa décision à lui, à savoir si... Là, il hypothèque le reste de sa vie pour des blessures qui sont en ce moment lui permettent d'aller plus loin l'an prochain ou l'année d'après pour revenir ou non. Ça, j'en ai aucune idée. Mais je peux vous dire que le Canadien de Montréal et Marc Bergevin savaient ce qu'il faisait lorsqu'il est allé chercher comme joueur et surtout lorsqu'ils l'ont nommé comme capitaine.
Tu sais, il y a des joueurs qui sont confrontés souvent à l'idée de devoir. Quitter, devoir prendre sa retraite lorsque le moment est venu. Tu sais, au bon moment. D'abord, est-ce qu'il y a un bon moment pour prendre sa retraite? Et puis, est-ce que si tu sautes toute une année, est-ce que tu peux revenir au niveau où tu étais avant de te mettre à l'écart?
Ça, c'est une bonne question. La première chose, il n'y a pas d'athlètes qui ont le goût de prendre leur retraite parce que c'est un rêve d'enfant, puis ils le vivent, puis on aimerait que ça dure toujours, mais on se rend compte que physiquement, un jour ou l'autre, le temps nous rattrape, puis on est obligé de s'arrêter. Donc, dans une transition, ce qu'on appelle la retraite pour les athlètes, il y a différentes façons que la retraite se présente. Très rarement, elle se présente au moment où le joueur a le goût de le faire, mais elle se présente au moment où il n'a plus les capacités de le faire. Donc, il va prendre une retraite. Ou la retraite va arriver malheureusement suite à un incident ou à une blessure qui empêche de revenir. Et c'est là, souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de se préparer à cette transition-là entre la vie professionnelle et la vie par la suite. Parce que c'est quand même difficile pour les athlètes de haut niveau. Lorsqu'on a été adulé, on a été apprécié, il faut savoir que très rapidement, les gens nous oublient et c'est quand même une transition qu'il faut se préparer physiquement,
ouais,
psychologiquement, puis aussi financièrement.
Oui, bien, ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que le cash, à lui seul, peut justifier que quelqu'un poursuive sa carrière avec les risques qui viennent avec, peut-être, d'être handicapé pour le reste de son existence? Est-ce que l'argent, pour la majorité des joueurs, c'est un élément qui est important?
C'est important parce qu'ils gagnent un montant d'argent qu'on juge, nous, que c'est énorme, mais quand on compte le nombre d'années qu'ils ont pour gagner la somme de ce qui va prendre soin de leur santé, parce que quand on prend notre retraite à 35 ans, il reste beaucoup d'années encore à subvenir à nos besoins, puis on a aussi un rythme de vie qui va avec ça. Ça, c'est le côté financier. Maintenant, ce que je peux te dire pour avoir côtoyé, puis côtoyé toujours encore en ce moment, beaucoup d'athlètes de haut niveau, il y a une chose qui est essentielle à l'athlète, c'est l'athlète a beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté. Et lorsque on revient, on veut être certain qu'on est capable encore de jouer au niveau où on était capable de performer ou au moins d'être en mesure de suivre la game, d'avoir encore les capacités pour être là puis de bien faire. Lorsque ça, c'est plus là, les athlètes s'en rendent compte puis souvent ils vont prendre leur retraite parce qu'ils se disent « Bon, mais je veux être certain que je participe, que je suis important pour l'équipe puis je suis encore capable de faire ce que je faisais avant. » Car ça diminue trop puis que ça devient pour l'athlète difficile de vivre avec ce sentiment-là de ne plus être à la hauteur, ils vont prendre leur retraite.
Bon, point à la ligne là-dessus. Un autre sujet très sensible, celui-là, celui de Logan Mailloux, le choix du premier tour des Canadiens de Montréal. Marc Bergevin n'a pas écouté le jeune homme. Le jeune homme a dit, écoutez, moi, je pense que j'ai des affaires à régler dans ma vie. J'ai pas purgé toute ma peine, on va dire ça comme ça. Alors, j'aimerais qu'on ne me repêche pas ce qu'a pas écouté Marc Bergevin. Pour ce qui est de Logan Mailloux, je ne sais pas pour la suite des choses, ça attire l'attention sur lui, sur ce qu'il a fait, avec cette photographie qu'il a partagée d'une jeune femme nue ou de leur ébat sexuel. Pour la suite des choses, là, entre ses deux oreilles, le jeune homme Mailloux en question, ça risque de pas être évident d'entreprendre. Lui, c'est pas de se retirer. Il n'a même pas entrepris encore sa carrière professionnelle. Ça risque d'être des débuts assez laborieux.
Robert, je veux t'avouer quelque chose. J'ai eu au moins 5 ou 6 offres de commenter là-dessus dans différents médias et j'ai refusé jusqu'à présent. Mais je sais que toi et moi, ça remonte à il y a très longtemps, puis on a une certaine complicité, puis en ondes, on a fait souvent des choses ensemble. Je vais te répondre maintenant d'une façon à ce que les gens puissent savoir que là-dessus, c'est pas le geste en tant que tel, mais les conséquences. Ce jeune garçon-là a fait quelque chose qui est inacceptable et qui a causé beaucoup de dommages pour une jeune fille. Mm-hmm. Ça, c'est le premier point. Et ça, malheureusement, c'est les médias sociaux. C'est ce qu'on peut vivre maintenant dans un instant. Lorsqu'on commet aujourd'hui pour nos jeunes, lorsqu'ils commettent une erreur, c'est une erreur qui est beaucoup plus grave que lorsque, à l'époque, si je voulais faire ça, c'était impossible. J'avais pas la technologie pour répandre une bêtise aussi rapidement. Mais là, aujourd'hui, c'est un fait, c'est la réalité. Puis les jeunes doivent le savoir que ça, c'est inacceptable. Puis c'est dans notre société, on ne veut plus ça.
Mm-hmm.
Maintenant, ce que je trouve triste, c'est que oui, ça, c'est inacceptable du côté de la fille. Puis j'espère que là, on en parle, puis ça peut aider d'autres jeunes garçons et jeunes filles, justement, à porter plainte si nécessaire et jeunes garçons ne pas commettre des actes qui pourraient blesser ou offenser d'autres personnes. Ça, c'est le point premier. Au moins, on en parle là, en ce moment. Je trouve ça triste. Mais on en parle. Lorsqu'on en parle, bien, je pense que ça démocratise le geste et ça fait en sorte que de façon, toute la société au complet, on est d'accord sur ce point-là, que c'est inacceptable. Maintenant, le Canadien de Montréal a pris la décision de repêcher ce jeune-là. Il faut regarder deux façons, deux choses très importantes. Un, on demande à une équipe de hockey de repêcher le meilleur joueur avec les meilleures capacités au rang où on va le repêcher. Ça, c'est une chose. Maintenant, les conséquences de ça, que lui, le jeune, dit « je pense pas que je suis assez mature pour me faire repêcher tout ça », c'est correct qu'il dise ça, parce que pour lui, il veut pas être sous les feux de la rampe. Mm-hmm. Il veut pas vraiment être mis et être exposé. Mais en même temps, c'est un jeune qui, au niveau du hockey, a les habilités et probablement que c'est à ce moment-là, lorsque le Canadien a repêché, là, je parle juste du monde du hockey, là. Je parle pas du côté psychologique, je parle pas de ce qu'il a fait, je parle juste purement habilité et le niveau lorsqu'on les évalue. Probablement le joueur qui était le meilleur au moment de ce que M. Trevor Timmons a décidé avec Marc Bergevin. C'est à ce moment-là, ça, c'est leur décision. Maintenant, est-ce que ce jeune-là, est-ce qu'on doit condamner le geste? Oui. Mais est-ce que nous, on est juge dans ça?
C'est ça. Mais à quel moment, tu sais, dans le fond, Sylvain, à quel moment il aura purgé sa peine? Là, je me mets à sa place. Exemple, là, le Canadien le rappelle, on a besoin de lui, il saute sur la patinoire et les gens ont ça en mémoire, il se fait huer. Tu imagines que pour un athlète, tu dois avoir les jambes pas mal molles, là.
Oui, mais c'est sûr qu'il y a des conséquences au geste qu'il a fait, puis il va devoir vivre avec ça, probablement encore pour une grande partie de sa vie, là. C'est moi, je dis toujours que dans la vie, il n'y a pas de récompense et il n'y a pas de pénitence, il n'y a que des conséquences. Il va subir les conséquences de ce qu'il a fait. Maintenant, est-ce que pour ça, on doit condamner une personne pour le reste de sa vie de ne pas être capable de gagner sa vie? Mais je pense que même les prisonniers ont le droit, après avoir purgé leur sentence, ont le droit à ce qu'ils puissent être dans notre société puis vivre correctement puis d'avoir la chance justement de se reprendre.
La réhabilitation, écoute, notre système carcéral est basé là-dessus, hein? Et je pourrais te citer plusieurs dizaines de personnes bien en vue dans la société qui ont fait des choses qui sont plus ou moins correctes, puis aujourd'hui qui gagnent très bien leur vie, puis qui sont dans la société adulés dans certains cas.
Oui, mais je souhaite surtout, Robert, comme tu le dis, que ce soit une prise de conscience et que cette prise de conscience-là amène les jeunes garçons, les plus vieux garçons, les hommes, à avoir un respect encore plus grand vers les femmes. Est-ce que le Canadien a bien fait ou non de le repêcher? Ça, c'est pas à moi de dire ça. Maintenant, est-ce que c'est à moi aussi de le condamner autant que de lui dire que non, il est repentant puis il mérite de ce qui lui arrive? Moi, je suis pas là pour ça. Je dis juste que faut faire attention dans notre société. Est-ce qu'on soit pas la justice? C'est pas nous la justice. Mais quand les gens vont placer des choses et que c'est parti, c'est difficile de revenir à l'arrière et de refaire ça. Donc, il faut être prudent de tous les côtés. Puis c'est justement ce système-là qui a blessé cette jeune fille-là autant. Et je pourrais jamais dire assez que c'est inacceptable. Ça, on est tous d'accord là-dessus.
Merci beaucoup de t'être ouvert de cette façon-là. Puis le message qu'on envoie.
C'est vraiment pas un sujet facile.
Non, c'est pas facile. Mais je pense que tu as bien résumé la situation. Collectivement, on dit que ce qu'il a fait, ça n'a pas d'allure, que c'est pas demain la veille où il faut l'applaudir, mais que dans la vie, dans la société, en général, notre système est basé sur la réhabilitation. Alors, quand il aura purgé sa peine, lui, comme d'autres, aura le droit de gagner sa vie.
Oui, puis j'espère, Robert, qu'il va peut-être servir de ça pour aider d'autres jeunes à dire « Écoutez, moi, j'ai commis quelque chose d'inacceptable, puis je souhaite que personne d'autre le fasse pour ne pas blesser la victime. » Parce que c'est toujours la victime qui demeure la personne qui est placée au centre de ça. Maintenant, si on l'avait pas repêché, s'il n'était rien arrivé, peut-être que ça fait revivre la même chose à cette victime-là, et c'est triste, ça, j'en conviens. Mais en même temps, ça peut-être ouvrir les yeux de d'autres jeunes à ce qui doit être privé, ce qui est le consentement, ça reste dans la vie privée des jeunes. Mais malheureusement, ils ont un cellulaire, puis trop souvent, on sait trop de choses sur eux. Notre système de communication, il est très dangereux. Il faut en être très, très prudent.
Merci, Sylvain. À bientôt. Alors, je te laisse retourner dans ta cour, dans ta piscine. Profites-en bien.
Merci, Robert.
Salut, à bientôt. Sylvain Guimond, conférencier, éducateur physique, ostéopathe, docteur en psychologie du sport.